Bonjour à tous, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin, de revoir aussi un certain nombre de têtes connues, notamment tous ceux que j'ai croisés à Teen Ranch, où nous avons servi le Seigneur ensemble pendant des années. Et voilà, je me réjouis de vous revoir, je suis avec mon épouse Rebecca, nos trois filles, Anaëlle qui a 4 ans, Thaïs qui a 2 ans, et Louise qui vient tout juste d'avoir 3 mois. Voilà, je travaille comme évangéliste avec une œuvre qui s'appelle France Évangélisation. Et je suis basé à Saint-Étienne, personne n'est parfait. Et je suis ancien dans une petite église là-bas, une église de la Mission des Alpes, donc assez proche aussi des CEF. Voilà, alors, je ne sais pas pour vous, mais souvent dans cette période-là, c'est un moment où on a l'habitude de faire des projets. Les beaux jours reviennent, on fait des projets pour l'été. Où est-ce que tu pars? Qu'est-ce que tu vas faire? Si vous êtes jeune et que vous avez des examens, vous commencez déjà à réfléchir à l'année suivante, à vos projets de vie. Et peut-être que vous faites le bilan de l'année en cours, celle qui va de septembre jusqu'à juin, puisque souvent c'est plutôt celle-là qu'on suit, plutôt que l'année civile. Et dans ces périodes où on fait des projets, une question qui se pose souvent pour nous qui sommes chrétiens, c'est comment faire ces projets avec le regard de Dieu? Qu'est-ce que Dieu voudrait me dire sur mes projets? Si tout à coup j'avais Dieu face à face, en face de moi, qu'est-ce qu'il me dirait? Et ce matin, je voudrais voir avec vous l'histoire d'un homme qui a eu l'occasion de voir Dieu face à face dans une vision. Et au travers de cette vision, nous verrons trois choses que Dieu lui a communiquées. Trois clés pour vivre une année, une vie qui compte pour Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe au chapitre 6 et nous lirons les versets 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. C'est Ésaïe qui parle et qui nous dit ceci. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Prions. Notre Père, merci pour ce texte que tu as inspiré par ton Saint-Esprit il y a des centaines d'années. Et merci parce que nous croyons que cette parole est toujours vivante et efficace pour nous toucher aujourd'hui. Je te prie que tu illumines nos cœurs, que tu ouvres nos yeux, nos oreilles, pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire dans ce texte. Que tu me donnes les bons mots pour parler à mes frères et sœurs et qu'au travers de ce texte, tu nous fasses du bien ce matin. Et que tu nous permettes de le mettre en pratique dans nos vies pour avoir des vies qui comptent pour toi, des vies qui soient centrées sur toi, Seigneur. Amen. Ésaïe vivait dans un temps qui était absolument calamiteux. Il vivait dans un temps où le peuple de Dieu s'était égaré, il s'était détourné, loin du projet que Dieu avait pour lui. Déjà le royaume du Nord, au nord d'Israël, 700 ans avant Jésus-Christ, avait été déporté par les Assyriens et Ésaïe avait une tâche difficile. Il devait annoncer que la même calamité allait s'abattre sur le royaume de Juda au sud. Les Babyloniens allaient arriver pour déporter ce royaume. C'était un temps compliqué où le peuple était corrompu, loin de Dieu. Si vous regardez au chapitre 1 et au verset 3, Dieu dit par exemple ceci, « Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de ses maîtres, Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend pas. Malheur à la nation pécheresse, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils se sont retirés en arrière. » C'était le contexte dans lequel Ésaïe vivait. Et si vous regardez le chapitre juste avant le nôtre, le chapitre 5 d'Ésaïe, il y a toute une série de malédictions. Où Ésaïe prononce des malédictions sur le peuple, et il y a toujours ce refrain qui revient, malheur à ceux qui, malheur à ceux qui. Et puis alors vous voyez, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. Il y avait déjà la folie immobilière dans ce temps-là. Malheur à ceux qui s'enivrent du soir au matin. Malheur à ceux qui changent le mal en bien et le bien en mal, etc., etc. Le monde était débridé, un petit peu comme nous le voyons aujourd'hui. Et puis c'était aussi une année particulière. Si vous regardez, notre texte débute en disant que c'est l'année de la mort du roi Ozias. Alors Ozias, c'était un grand roi en Israël, un roi où le livre des Chroniques nous dit qu'il a régné pendant 52 ans. Imaginez, pour les plus anciens parmi nous, si vous n'aviez pas connu d'autres présidents que Georges Pompidou, et c'est le même qui continue pour 52 ans. Un contexte de stabilité politique, quelqu'un qui est resté là et qui a été un grand roi. Il a amené de la richesse, de la prospérité, et surtout il a remporté de grandes victoires militaires. Et notamment à l'époque du roi Ozias, il a développé les armes de l'armée d'Israël. Et puis il a aussi, avec des ingénieurs, nous dit le livre des Chroniques, inventé des machines de guerre, des catapultes et des balistes qu'on plaçait en haut des tours à Jérusalem et qui permettaient de résister face aux ennemis. Et le livre des Chroniques nous dit que sa renommée s'est étendue loin jusqu'aux confins de l'Égypte et même au-delà, parce que c'était un grand roi qui a suivi l'Éternel. Mais dans la vie du roi Ozias, il y a eu un tournant, un jour où Ozias, au sommet de sa gloire, a décidé de rentrer dans le temple, et il a décidé d'aller offrir des parfums sur l'autel des parfums. Et la loi de Dieu était très claire, seuls les sacrificateurs avaient le droit d'offrir des parfums à l'Éternel sur l'autel des parfums. Et au moment où le roi Ozias s'est approché de l'autel, le livre des Chroniques, au chapitre 2 Chroniques 26, nous raconte qu'à ce moment-là, le souverain sacrificateur Azariahou et 80 sacrificateurs avec lui sont rentrés dans le temple, ils se sont mis face au roi et lui ont dit « Ozias, il ne t'est pas permis d'offrir des parfums sur l'autel des parfums. Arrête immédiatement. » Et Ozias, au lieu de s'arrêter, il s'est enflammé de colère. Et le texte nous dit qu'à ce moment-là, la nuée, comme c'était le cas lorsque la gloire de Dieu apparaissait, a rempli le temple, et Ozias était frappé de la lèpre sur son front. Et ce roi, qui était un roi glorieux, un grand roi, a fini sa vie comme un lépreux, banni, mis dans une cabane au banc de son peuple. Imaginez le contexte. Un peuple dans une situation complètement perdue, situation calamiteuse, un roi qui vient de mourir. Un roi qui rappelle à lui tout seul la déchéance d'un peuple qui oublie Dieu et qui se prend pour Dieu à la place de Dieu. Et Ésaïe, qui probablement vivait à la cour du roi, puisque c'était un petit peu le prophète en chef dans ce temps-là, il pense à tout ça dans cette année calamiteuse. Et je ne sais pas pour vous dans quelle situation vous êtes. Peut-être que pour vous, c'est aussi une année difficile. Une situation difficile. Moi, l'année 2015 a mal commencé. Le 29 décembre, je suis tombé dans la rue sur du verglas, je me suis cassé la rotule et j'ai dû passer le début de l'année au fond de mon lit. Ça a duré un mois et puis pendant un deuxième mois, j'avais les soins intensifs chez le kiné et je commence tout doucement à voir le bout du tunnel. Parfois, il y a des circonstances dans nos vies où on a l'impression que tout s'écroule. Ça peut être des circonstances familiales, des circonstances professionnelles, des épreuves, des contextes de vie compliqués. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que Dieu veut le plus se révéler à nous. Et c'est ce qui se passe avec Ésaïe ici. Alors qu'Ésaïe est dans ce temps complètement calamiteux où tout semble s'écrouler autour de lui, Dieu veut lui parler. La première chose que Dieu va lui communiquer, c'est que Dieu va montrer à Ésaïe qui il est vraiment. Et c'est la même chose pour nous. Si Dieu était en face de nous, la première chose qu'il voudrait que nous réalisions, c'est qui il est. Première clé pour vivre une vie qui compte pour Dieu, réaliser qui est Dieu. Et c'est intéressant la façon dont Dieu se présente dans ce texte. Relisons à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très, très, très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint !» Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. La première chose que voit Ésaïe, c'est le Seigneur lui-même. Et l'évangile de Jean nous dira que ce jour-là, Ésaïe a vu la gloire de Christ, notre Seigneur. Il voit Dieu sur un trône. Et ce n'est pas n'importe quel trône, c'est un trône qui est très élevé. Comme si Dieu se montrait au-dessus de tout ce qu'Ésaïe connaît. Au-dessus des nations, au-dessus du peuple, au-dessus des rois, au-dessus de l'univers lui-même, Dieu apparaît tout en haut. Et puis Ésaïe voit également les pans de la robe de son Seigneur qui remplissent le temple. Ce même temple où Ozias a péché, où il s'est dressé contre Dieu, tout à coup, ce temple est rempli de la gloire de Dieu, de la majesté divine. Et puis autour du trône, il y a les séraphins, littéralement ceux qui sont consumés par le feu, ou de feu brillant. Ce sont des anges, des êtres célestes. Et je ne sais pas pourquoi, souvent on pense qu'il y en a seulement quelques-uns. En réalité, le texte ne dit pas combien ils sont. Mais si on regarde dans d'autres textes, on peut penser qu'ils sont des myriades et des myriades autour du trône de Dieu. Et ces anges qui sont saints, qui sont purs, eux-mêmes devant la face de Dieu, se couvrent la face pour ne pas le voir en face. Ils crient « Saint, Saint, Saint ». C'est intéressant parce qu'ils auraient pu simplement dire « Saint et l'Éternel ». Mais en hébreu, lorsqu'on répète trois fois la même chose, c'est une manière de dire « le plus saint ». C'est le superlatif. Le plus saint, rien n'est plus saint que lui. Un adjectif qui veut dire « pur, sacré, limpide, parfait dans tout ce qu'il est ». C'est une manière de dire que Dieu est autre. Autre à un tel point que même les anges ne peuvent le regarder face à face. Et puis il crie « toute la terre est pleine de sa gloire ». Ils auraient même pu dire « tout l'univers est plein de sa gloire ». Il suffit de regarder avec un microscope la plus petite des molécules pour voir. Ça donne le vertige de voir les perfections qu'il y a, de lever les yeux vers le ciel la nuit, de regarder les flots des océans, le fracas lorsque la terre tremble, etc. Et nous voyons à quel point la création, la terre, est pleine de la gloire de son Créateur. Qu'est-ce que tout cela veut dire? La première chose, c'est que Dieu règne sur tout de manière absolue. Il est sur un trône très élevé. Peut-être que vous vous demandez en ce moment, mais qui est-ce qui contrôle dans ce monde? Nous voyons les guerres, les tremblements de terre, nous voyons des détresses dans nos vies, et nous nous disons, mais qui est aux commandes? Et Dieu se montre à Ésaïe et lui dit, Ésaïe, je suis sur le trône, et je règne au-dessus de toute chose. Paul dira que en lui nous avons le mouvement, la vie et l'être. Il tient tout dans ses mains. Nous existons en lui. Ça veut dire que si à cet instant Dieu s'arrêtait, ne serait-ce que de penser à nous, tchouf, nous disparaîtrions. Nous existons en lui. Il tient toute chose par sa parole puissante, nous dit le Nouveau Testament. Dieu est au contrôle de tout. Même le péché de l'homme est tenu dans sa main, contrôlé par lui. Dieu est totalement souverain sur ta vie. À un point que Jésus dira que même les cheveux de votre tête sont comptés. La deuxième chose que Ésaïe veut communiquer, c'est que toute la gloire est pour lui. Sa robe remplit le temple de telle sorte qu'il n'y a de place pour rien d'autre. Imaginez si une reine rentrait dans cette pièce, la reine d'Angleterre ou des Pays-Bas, et puis au fur et à mesure qu'elle avance, on voit la traîne de sa robe qui remplit la pièce. Et on se dit, mais quelle majesté! Là, c'est encore plus glorieux. Dieu remplit tout. De telle sorte que lorsque Dieu prend la place, il n'y a de place pour rien d'autre que pour lui, sa présence, sa gloire. Et les anges se couvrent devant lui pour dire « Nous ne sommes que des créatures ». Enfin, si Dieu est autre, il est autre aussi dans le domaine moral. Ça veut dire que tout est pur devant lui. Les anges qui sont autour de lui, qui nous semblent purs, ils sont un petit peu comme cette feuille blanche. On pourrait prendre un stylo et la noircir. Dieu, lui, est plutôt pur comme la lumière. Je ne sais pas si vous regardez les films policiers, mais peut-être vous avez déjà vu ces projecteurs qu'on accroche sur les hélicoptères pour chercher les bandits quand ils sont en escapade pendant la nuit. Et imaginez si je prenais un projecteur comme cela et que je le mettais ici au centre de la pièce et que je l'allume. La lumière serait tellement intense que tout de suite, instantanément, vous tourneriez la face. Impossible de regarder face à face. Imaginez maintenant voir le soleil en plein midi. C'est impossible. Nous serions brûlés. Eh bien, la pureté de Dieu est ainsi. Une pureté telle que la moindre imperfection ne peut même pas subsister en lui. Il est d'une lumière qui exclut totalement le mal. Habacuc dira que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Et c'est ce qui fait que l'homme pécheur ne peut pas subsister dans la présence de ce Dieu-là. Dieu est totalement souverain, il est totalement glorieux, il est totalement saint. Première chose que Dieu veut nous communiquer, il veut que nous réalisions qui il est. Alors, lorsque Ésaïe voit cela, il a la réaction normale que devrait avoir un homme face à Dieu. Regardez le verset 5. Alors je dis, malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe voit la gloire de Dieu, il voit les anges qui crient, et tout à coup il se dit, mes lèvres ne sont pas comme les lèvres de ces anges. Mes lèvres sont impures, je ne suis pas digne de voir Dieu, je mérite de mourir. Je pense que lorsqu'Ésaïe a vu la gloire de Dieu et la nuée qui remplissait le temple, l'année de la mort du roi Ozias, il a cru qu'il allait lui arriver la même chose qu'au roi Ozias. Malheur à moi, je suis un pécheur. Et ça nous pose la question, est-ce que nous sommes toujours capables, devant Dieu, face à Dieu, de dire malheur à moi? Ou est-ce que je me contente simplement de juger et de dénoncer le mal chez les autres? Si vous regardez le chapitre 5 juste avant, Ésaïe passe son temps à prophétiser et à dire « Malheur à ceux qui !»« Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison !»« Malheur à ceux qui sont enivrés !»« Malheur à ceux qui changent le mal en bien et le bien en mal !» Et tout à coup, face à la gloire de Dieu, Ésaïe ne dit plus « Malédiction sur les autres !» Il dit « Malédiction sur moi !» Je suis un homme pécheur, je suis misérable, je mérite de mourir, je ne suis pas digne de voir Dieu face à face. Et ça pose question, est-ce que dans l'Église, nous nous contentons de juger le monde qui nous entoure? Est-ce que nous nous contentons de juger ceux du dehors? Ou est-ce que nous sommes encore capables de voir ce qui dans nos vies n'est pas à la gloire de Dieu et dire malheur à moi? Parfois, le danger avec ce genre de message, c'est de croire qu'il est simplement pour ceux qui ne se sont pas encore tournés vers Jésus. De croire qu'il est que pour les autres, pour ceux du dehors. Et alors, on prêche l'Évangile, on annonce la vérité. Et à l'intérieur de l'Église, nous vivons le contraire. Nous nous mordons, nous médisons, nous jugeons, nous manquons de pardon. Et quelque part, il y a une incohérence entre l'Évangile que nous prêchons et la réalité de ce que nous vivons. Parfois, nous aimons mettre les problèmes sous le tapis. Et on aime bien ça. Au lieu d'amener les problèmes à la lumière de la souveraineté de Dieu et de dire « Malheur à nous, Seigneur, aie pitié de nous, montre-nous comment résoudre cela. » Nous mettons les problèmes sous le tapis. Et vous savez ce qui se passe au moment. Il y a tellement de problèmes sous le tapis que c'est plus un tapis. C'est des montagnes russes. Et les gens du dehors, ils regardent l'Église et ils voient ça. Et ils se disent, mais c'est pas possible. Il n'y a que eux qui sont aveugles pour ne pas voir. Ça crie tellement qu'on aura envie de dire, mais faites quelque chose. Hélas, combien de fois nous ne sommes plus capables de dire, malheur à moi. Est-ce que nous pouvons nous tenir devant Dieu par notre propre justice? C'est impossible. Guy l'a tellement bien rappelé ce matin. Tout ce que nous pouvons faire face à Dieu, où que nous en soyons, c'est de dire « Seigneur, malheur à moi, je ne suis pas digne, Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous sommes capables de dire « malheur à moi », aussitôt, nous sommes capables de recevoir la grâce de Dieu. Dieu veut que nous réalisions qui il est, et ensuite, il veut que nous recevions sa grâce. Regardez verset 6. « Mais, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » C'est intéressant de voir que Ésaïe ne fait absolument rien pour recevoir la grâce de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est de dire « malheur à moi ». Et aussitôt, la grâce est là, disponible. Et cet ange va chercher cette braise sur l'autel, l'autel où on offrait les sacrifices. Pourquoi est-ce qu'on offrait des sacrifices à l'époque ? Tout simplement parce que Dieu avait donné sa loi, et Dieu savait très bien que l'homme était incapable de vivre selon les commandements de Dieu. La loi était bonne, elle reflétait le caractère de Dieu, mais face au péché, eh bien finalement, elle ne pouvait changer les hommes, elle ne faisait que dévoiler le mal de leur cœur. Alors Dieu avait trouvé une solution palliative, il avait dit aux hommes, eh bien lorsque tu auras péché, tu prendras un mouton, un agneau ou un veau, tu l'amèneras au temple, tu mettras ta main sur la tête de l'animal et tu confesseras tes péchés. Et lorsque tu feras ça, c'est comme si ton péché allait sur l'animal. Et du coup, on mettra l'animal à mort et toi, tu repartiras juste puisqu'il a été condamné à ta place. Et on se dit, mais c'est trop facile, est-ce qu'il suffit de tuer un animal pour être pardonné ? Non, c'est une image. La Bible nous dit que ces sacrifices annonçaient un sacrifice bien plus grand qui allait venir plus tard. 700 ans après Ésaïe, lorsque Jean-Baptiste verra venir Jésus, il le regarde et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient ce sacrifice parfait. Le jour où Dieu allait venir dans un homme, prendre sur lui le péché de l'humanité pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Voici comment Ésaïe, 700 ans avant, a annoncé ceci au chapitre 53. « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, dit-il en parlant de Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Lorsque cet ange va prendre cette braise sur l'autel du sacrifice, c'est déjà l'image de ce sacrifice parfait que Jésus allait accomplir et qui vient toucher Ésaïe pour dire « Tu as reconnu ton péché, la grâce est disponible pour toi parce que ton péché a été payé à la croix par Jésus-Christ. » Jésus dira « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Est-ce que tu as été réconcilié avec Dieu ? Est-ce que tu as reçu la grâce ? Vous savez, la seule différence entre Ésaïe et Ozias, c'est que face à la gloire de Dieu, lorsqu'ils ont vu Dieu face à face, l'un était capable de dire « malheur à moi ». Et l'autre non. La grâce est pour ceux qui sont capables, devant la sainteté de Dieu, de dire « malheur à moi, je suis un homme pécheur, je suis perdu. Mes bonnes œuvres, aussi bonnes soient-elles, ne me permettront jamais de tenir face à un Dieu saint. » Et si tu es capable de dire « malheur à moi », alors Dieu t'invite à recevoir sa grâce. Elle est disponible. Il suffit de croire qu'à la croix, Jésus-Christ a payé ton péché. Pour nous qui sommes déjà chrétiens, qu'est-ce que cela veut dire ? Parfois, nous aurions tendance à croire que l'évangile, c'est le béaba de la vie chrétienne, et puis qu'une fois qu'on aurait été sauvé par grâce, eh bien, on vivrait jour après jour en faisant des choses pour Dieu. Je dois lire ma Bible, je dois prier, je dois faire ceci, je dois faire cela, et si je le fais, je progresse dans ma vie chrétienne. Mes amis, cela n'est pas l'évangile. Cela, c'est ce qu'on appelle vivre sous la loi. Et ça vous mènera nulle part, si ce n'est à l'échec, parce que vous n'allez pas y arriver, ou à l'orgueil, parce que vous allez croire que vous réussissez trop bien. La réalité, c'est que Dieu nous appelle, jour après jour, à puiser nos forces, non pas dans ce que nous pouvons faire pour lui, mais dans ce que lui a fait pour nous. Une vie centrée sur l'Évangile, c'est de nous venir jour après jour devant Dieu, de soumettre notre vie telle qu'elle est, et de dire « malheur à moi, j'ai encore besoin que tu me sauves dans tel domaine, j'ai encore besoin que tu changes ceci ». Et alors, lorsque nous faisons ça, nous pouvons recevoir sa grâce qui nous transforme jour après jour, de telle sorte que s'accomplit ce que Paul disait à Timothée. Dieu est le sauveur de tous, et en premier lieu, des croyants. Est-ce que Dieu est toujours votre sauveur? Avez-vous besoin d'être sauvé aujourd'hui de vos mauvaises pensées, de vos excès de colère, de votre mauvais caractère? Amen, j'en ai besoin. Et la vie chrétienne, ce n'est pas d'essayer de changer cela par moi-même, mais d'apprendre à me repentir de plus en plus vite, de telle sorte que jour après jour, je reçois la grâce et Dieu me transforme, non pas par mes forces, mais par sa force en moi. Tu réfléchis à ton projet pour ta vie? Dieu t'invite à réaliser qui il est. Il t'invite à recevoir sa grâce. Et troisième chose, il t'invite à rentrer dans sa mission. Regardez la suite du texte. Aussitôt que la braise a touché les lèvres d'Ésaïe, l'ange dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié ». Et à ce moment-là, moi dans ma Bible, il y a une petite coupure, mais en fait dans le texte, il n'y a pas de coupure. « Aussitôt, j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il y a dans ce texte le summum de la grâce. Ésaïe vient d'être confondu, Dieu a montré tout son péché, il reçoit la grâce, on pourrait dire, bon, ben, c'est déjà pas mal. Mais Dieu va encore plus loin. Aussitôt, il l'envoie dans sa mission. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais envie de me dire, est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce qu'on ne peut pas attendre qu'il ait fait un peu ses preuves, qu'il y ait quelque chose de bon qui sorte de lui? Non. Dieu sait bien qu'en Ésaïe, il n'y a rien de bon. Et que la seule chose qui est bonne en lui, c'est la grâce qu'il a reçue de Dieu. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang. Versé pour moi, comme dit le cantique, je viens. Je viens, je m'engage, je rentre à ton service. Aussitôt gracié, aussitôt envoyé. La seule chose qui qualifie Ésaïe, c'est qu'il est capable de dire « malheur à moi ». Et parce qu'il est capable de dire « malheur à moi », il peut compter sur la grâce de Dieu pour rentrer dans son appel. Et ça nous pose la question. Est-ce que nous utilisons la grâce de Dieu pour simplement être réconcilié avec lui et mener une petite vie tranquille? Ou est-ce que cette grâce nous pousse à rentrer dans l'appel que Dieu a pour notre vie? Pour Ésaïe, son appel, c'était d'être prophète en Juda, d'annoncer le jugement qui allait arriver, mais aussi qu'un jour, si le peuple se repentait, la grâce était de nouveau disponible. Pour nous, notre appel, c'est celui que Jésus nous a donné. Dès les premiers chapitres de l'Évangile, lorsque Jésus appelle ses disciples, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Et puis lorsqu'il les envoie à la fin de l'Évangile, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Du jour où il les a appelés jusqu'au jour où il les a envoyés, son appel est le même. Notre vie chrétienne est là pour que nous puissions être une lumière pour d'autres, en partageant l'Évangile et en accompagnant ceux qui sont moins loin que nous dans la foi à avancer davantage dans la foi. Nous avons tous reçu de Dieu quelque chose que nous pouvons redonner à d'autres. Et Ésaïe, lorsqu'il a vu cela, aussitôt il a répondu « Me voici, envoie-moi ». Je pense que le raisonnement qu'il y a eu dans la vie d'Ésaïe était un petit peu celui-ci. Ésaïe savait qu'il aurait dû être mort, et Dieu lui a fait grâce. Et quelque part il se dit « Je devrais être mort, mais si Dieu me fait grâce, alors s'il me fait vivre, je veux vivre ma vie pour lui ». Et ça, c'est le sens de la vie chrétienne. Paul dira dans 2 Corinthiens 5, verset 15, que Christ est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement de se tourner vers Jésus-Christ, mais c'est jour après jour de renoncer à nous-mêmes, de se charger chaque jour de notre croix et de le suivre. de le suivre comme un disciple suit son maître et de poursuivre sa mission. Tu réfléchis peut-être au projet pour ta vie. Mais quel est le projet de Dieu pour toi? Es-tu prêt à rentrer dedans? Pour moi, mon appel était clair. Lorsque j'avais 14 ans, je m'étais converti et j'ai lu la biographie d'Hudson Taylor. Et dans ce livre, j'étais marqué un jour qu'il était en Chine. Il écrit à son groupe de prière en Angleterre et il dit ceci: « De tous côtés, les âmes périssent faute de connaître la vérité. Comment pouvons-nous rester assis sans rien faire, sans que le sang de ces populations ne retombe sur nos têtes ?» Et le jour où j'ai lu ça, je me suis dit « Mais c'est vrai, on ne peut pas rester assis sans rien faire alors que des gens meurent et qu'ils vont en enfer. » Et ce jour-là, j'avais la conviction que Dieu m'appelait à être un évangéliste. Et puis ça a grandi, ça s'est développé petit à petit, et Dieu finalement l'a accompli. Ce n'est pas forcément l'appel que Dieu a pour ta vie. Peut-être que Dieu t'appelle à exercer une profession dans ton métier, où jour après jour, tu vas témoigner de lui par ton intégrité, par ton assiduité au travail, par l'amour qui se dégage de toi. Et puis tu vas servir dans une église, où tu vas être une bénédiction pour d'autres. Et puis tu vas utiliser tes biens pour soutenir peut-être d'autres qui partiront dans la mission. Et tu vas prier pour eux. Peu importe quelle est la vie que Dieu te donne. Mais est-ce que cette vie-là, tu veux la centrer sur toi? Ou est-ce que tu veux l'utiliser pour rentrer dans la mission de Dieu? Cette vie est courte. J'aime dans les camps d'évangélisation que j'organise parfois, prendre les jeunes et les amener dans un cimetière. Et alors certains disent, mais c'est quand même pas un endroit très charmant pour les jeunes. Et pourtant, l'Ecclésiaste dit qu'il vaut mieux rentrer dans une maison de deuil que dans une maison de joie, parce que ce jour-là, on réfléchit. Et alors, on fait rentrer les jeunes dans les cimetières, on leur demande de marcher, et puis après, on leur dit « qu'est-ce que vous avez vu ?» Alors, la première chose qu'ils réalisent, c'est qu'une tombe, on a beau parler tant qu'on veut, le mort ne se lève pas. Et que lorsqu'on apprend qu'on était mort dans nos péchés, c'est la même chose pour nous. Seul Dieu peut changer les morts et toucher nos cœurs, comme il était le seul à pouvoir faire grâce à Ésaïe. Mais il y a d'autres choses qu'on apprend dans les cimetières. Et une chose intéressante, c'est de regarder les points communs sur chaque tombe. Et on dit aux jeunes, mais qu'est-ce que vous avez vu sur toutes les tombes? Puis alors ils réfléchissent un peu et ils finissent par trouver. Sur chaque tombe, il y a deux dates et un trait d'union entre les deux. C'est le cas sur toutes les tombes dans le monde entier. Et la réalité, c'est que ça représente très bien ce qu'est notre vie ici-bas. Notre vie ici-bas est un trait d'union entre deux dates. Et une fois que ce trait d'union est passé, eh bien c'est l'éternité. Et ce que nous faisons de ce petit trait d'union que Dieu nous donne détermine notre avenir éternel. Est-ce que je vis pour moi-même ou est-ce que je vis pour Dieu? Si je suis à Christ, est-ce que cette vie-là je l'utilise pour moi ou est-ce que je l'utilise pour porter du fruit pour la vie éternelle? Pour être avec tous ceux que Dieu aura sauvés au travers de moi, tous ceux qu'il aura influencés au travers de moi. Je ne sais pas quelle est votre mission. Peut-être que Dieu vous a appelé à faire partie de ces hommes d'affaires qui gagnent de l'argent. Faites-le fructifier pour le royaume de Dieu. Peut-être que vous êtes un enseignant dans une petite école. Utilisez ça pour Dieu en montrant ce qu'est d'être un enseignant chrétien qui va être une bénédiction pour d'autres. On peut mener une vie d'apparence ordinaire, mais qui a une influence énorme pour l'éternité. Dieu nous invite à réaliser qui il est, à recevoir sa grâce et à rentrer dans sa mission. Je voudrais terminer en racontant une petite histoire. L'histoire d'une famille qui a pu recevoir la grâce de Dieu et rentrer dans sa mission. C'est une histoire qui se passe il y a environ 35 ans à Lyon. Et c'est l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille qui avait vécu une enfance très difficile. Elle avait un père qui la maltraitait et qui était vraiment un père méchant. Et puis elle était orpheline de mère. À 14 ans, elle avait perdu sa maman. Et puis cette jeune fille, elle a profité de la loi Giscard d'Estaing qui permettait d'avoir la majorité à 18 ans. Et du jour où elle a pu être majeure, elle a décidé qu'elle quittait sa maison et son bourreau de père. Et puis elle est partie et elle avait finalement très peu de chance, très peu d'espoir. Tout ce qu'elle avait, c'était un CAP de vendeuse en charcuterie et elle a commencé à exercer son métier. Mais heureusement, elle avait une amie avec qui elle a bien sympathisé, et cette amie était chrétienne. Une chrétienne dont la famille fréquentait cette assemblée ici, il y a 35 ans, à Lyon. Et cette dame qui venait de quitter sa maison, qui n'avait rien à faire, a commencé à sympathiser avec cette jeune fille et puis à l'inviter dans sa maison. Et elle avait l'habitude de fréquenter cette famille, et dans cette famille, elle a entendu l'évangile. Vous vous demandez peut-être, mais qui est cette famille qui fréquentait cette église il y a 35 ans? C'est la famille Griesi. Et certains sourient parce qu'ils ont déjà reconnu. Et alors la dame dont je parle, eh bien il s'agissait de ma maman. Et ma maman, donc, s'est retrouvée là, elle a fréquenté la famille Griesi, et c'est dans cette famille qu'elle a découvert l'évangile. Et puis elle a rencontré un jeune homme qui venait d'une situation tout aussi compliquée. Et lui, il avait rencontré des professeurs chrétiens à Saint-Chamond, dans la Loire, qui organisaient les après-midi un club de jeunes où ils annonçaient l'évangile. Et il a découvert l'évangile par ce biais-là. Ces deux jeunes se sont rencontrés, ils se sont mariés, ils ont eu un fils, c'est moi, et aujourd'hui, je suis évangéliste avec France Évangélisation, et Dieu me fait la grâce de prêcher l'évangile en France, mais aussi dans plusieurs pays, et même sur plusieurs continents, puisque j'ai régulièrement l'occasion d'aller en Afrique. Qu'est-ce que cette histoire montre? Ça montre que Dieu aime faire des grandes choses avec de petits détails. Cette histoire montre qu'un jour, Dieu a utilisé une petite famille d'immigrés italiens qui vivaient en France à Lyon pour simplement ouvrir leur maison, accueillir une jeune fille qui avait peut-être aucune chance, aucun espoir dans ce monde, et pour leur montrer avec un cœur grand ouvert la réalité de l'évangile. Et Dieu s'est servi de ça pour la sauver elle, mais en plus sauver sa famille, et des années plus tard, on voit le fruit que ça porte. En apparence, une vie ordinaire, toute petite, toute simple, mais qui a eu quelque chose d'énorme pour Dieu, parce que ces gens-là ont reçu la grâce de Dieu, ils ont réalisé qui était Dieu, et ils ont décidé de vivre non plus pour eux-mêmes, mais pour Dieu, simplement en ouvrant leur famille, en exerçant l'hospitalité. Qu'est-ce que ça nous montre? Pas besoin d'être Hudson Taylor ou Billy Graham pour avoir une vie qui compte pour Dieu. Dieu nous invite simplement, comme il a toujours invité, à ce que nous réalisions qui il est, à ce que nous recevions sa grâce, et à ce que nous rentrons dans sa mission avec la vie, les dons et les capacités qu'il nous a données. Peut-être que vous, dans votre église, vous vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de nous? Ou individuellement, vous vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Réalisez qui est Dieu. Recevez sa grâce. Rentrez dans sa mission. Et Dieu va vous qualifier pour l'appel qu'il a prévu sur votre vie. Il va vous utiliser. Et au travers de vous, Dieu va en bénir d'autres. Et vous aurez une vie qui comptera pour l'éternité. Prions. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce livre d'Ésaïe qui nous rappelle que dans les temps les plus calamiteux de nos vies, tu veux te révéler à nous. Tu veux te révéler à nous pour que nous puissions réaliser qui tu es, pour que nous puissions recevoir ta grâce, pour que nous puissions rentrer dans ta mission. Seigneur, je ne sais pas quelle est la situation de mes frères et sœurs ici, quel est leur vécu quotidien, mais je sais que dans leurs circonstances, tu veux te révéler à nouveau à eux. Tu veux leur manifester davantage qui tu es, leur communiquer une grâce qui vient de toi et les utiliser pour ta gloire. Seigneur, que chacun d'entre nous, comme Ésaïe, nous puissions avoir cette double attitude, celle de dire « malheur à moi, je ne mérite rien, j'ai besoin de la grâce de Dieu » et celle de dire « me voici, envoie-moi, s'il m'a fait grâce, s'il me fait vivre, je veux vivre ma vie pour lui. » Seigneur, fais-nous grâce et par ton Saint-Esprit, donne-nous la force, la grâce de vivre une vie qui t'honore ici-bas et qui portera du fruit pour l'éternité. Amen.
Merci Philippe, je vous promets qu'on ne s'était pas téléphoné avant. Donc en fait, on a le choix entre Ésaïe et Ozias, hein, c'est ça, ce matin. Samuel nous propose de terminer ce culte par deux courts chants. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.
On va chanter deux chants. Le premier tel que je suis, sans l'un d'un bras, trois et quatre. Et ensuite, Jésus sur le centre de la vie.